Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Frida Kahlo, un nom que tout le monde connaît et auquel on associe ses noirs sourcils déployés comme des ailes d'oiseaux, signe reconnaissable entre tous sur la somme d'autoportraits peints par l'artiste mexicaine. Icône du féminisme entre deux guerres, symbole du triomphe de la volonté de puissance féminine dans un monde artistique presque exclusivement masculin. La peintre a vécu une romance avec Léon Trotsky en 1937. Mais s'agissait-il vraiment d'une histoire d'amour ? Pour tenter de percer ce qui reste caché sous le voile du mystère, je vous propose d'explorer quelques instantanés de la vie de Frida Kahlo dans ce nouvel épisode en deux parties. En 1919, s'est tenue au musée Fabergé de Saint-Pétersbourg une exposition intitulée « Viva la vida », consacrée au couple d'artistes du XXe siècle le plus célèbre en Russie, Frida Kahlo et Diego Rivera. Dès le début des années 30, les deux peintres ont acquis une solide notoriété en Union soviétique. Ils sont considérés pour leur talent et surtout pour leur engagement au sein du Parti communiste mexicain. À cette époque, être communiste est un sésame pour qui veut accéder à la gloire dans l'ancien empire des tsars. Qu'importe le talent, pourvu qu'on ait la carte du parti. L'œuvre d'art n'a de valeur que si elle vient participer à l'émancipation des classes laborieuses. Le Mexique, depuis 1910, a vécu plus d'une décennie de chaos. Soulèvements populaires, coups d'État militaires, les régimes se succèdent à la vitesse de l'éclair. Comme en Russie, les inégalités qui affectent les différentes parties de la société suscitent une déferlante de révoltes sanguinaires. Il y a de quoi crier vengeance. Depuis presque un demi-siècle, une poignée de propriétaires détiennent 80% des terres, quand l'immense majorité des paysans ne possèdent strictement rien. C'est dans ce contexte tendu que grandit Frida Kahlo, entre un père photographe d'origine allemande et une mère mexicaine. Avant sa rencontre à 15 ans, avec celui qui deviendra son mari, le célèbre peintre Diego Rivera, elle vit une enfance heureuse, à peine assombrie par une poliomyélite qui lui laisse la jambe droite atrophiée. À Coyoacán, où elle grandit, son regard s'enivre de l'orgie de couleurs qui font le charme tout exotique de cette petite ville de la banlieue sud de Mexico. Elle fréquente la meilleure école du Mexique, s'entoure d'un grand nombre de copines et copains. On apprécie la bonne humeur, la gentillesse, l'humour et la conversation, parfois franchement crue, de celle qui se surnomme elle-même « Jambe de bois ». Voici un message adressé à son amie Adelina Zenderas lors de l'année scolaire 1922-1923.
« Si tu veux bien arrêter de jouer les poltronnes et les froussardes, fais-toi la malle et viens à l'amphithéâtre. Le génie ventripotent est en train de peaufiner une fresque. Il a promis de nous expliquer de quoi ça parle et qui ont été ses modèles pour les personnages. Ta pote Frida Jambe de Bois de Coyoacán des Coyotes. »
Le génie ventripotent, c'est Diego Rivera, qui réalise à ce moment-là une fresque pour l'école qu'elle fréquente. Elle a 15 ans, il en a 36. Même si l'adolescente est subjuguée par le talent du peintre, elle n'envisage en rien d'embrasser une carrière artistique. Pour l'heure, elle veut devenir médecin. C'est son désir, sa vocation. Quoique née dans une famille marquée par ses liens avec l'ancien régime du président déchu Porfirio Díaz, Frida nourrit déjà des idées révolutionnaires. Elle est ambitieuse, passionnée et encore profondément croyante. Elle va à la messe, se confesse, communie. Dans sa correspondance de l'époque, elle invoque régulièrement l'intercession de la Vierge Marie et des saints. Certaines lettres sont précédées d'une mention de la fête religieuse du jour. Entourée par ses quatre sœurs, choyée par des parents attentifs, généreux, aimants, Frida se sent appelée à incarner la femme de l'avenir. Elle veut aimer, sentir, travailler, voyager, régner à l'égal des hommes. Son visage va prendre la tournure de ses aspirations à l'égalité des sexes, avec ses traits rugueux, arborant des sourcils noirs et épais, et cette très fine moustache qu'elle ne manquera jamais de revendiquer dans ses photographies. Pourtant, la femme en elle n'abdique en rien sa féminité. En témoigne son regard, habité par une infinie tendresse, et ce délicat port de tête qui, pour ses amants, seront tout à la fois ceux d'une mère, d'une enfant ou d'une sœur. L'heure n'est pas encore arrivée de l'accident terrible qui va bouleverser toute sa vie. Et pourtant, au milieu de cette joie sauvage jusqu'à la férocité qui l'anime et règle sa vie d'adolescente, elle a le pressentiment étrange que la souffrance est l'alpha et l'oméga de la vie terrestre. Est-ce une des traces laissées par sa profonde religiosité ? Chez elle, l'amour et la compassion ont pris le chemin d'une union indissoluble.
Lettre à Alejandro Gomez Arias, le 15 décembre 1922.
Alejandro, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Reçois du fond du cœur vraiment toutes mes condoléances. Tout ce que je te conseille en tant qu'ami, c'est d'avoir assez de force, de volonté pour supporter les peines que Dieu notre Seigneur nous envoie pour nous mettre à l'épreuve de la douleur. Car nous venons au monde pour souffrir. J'ai ressenti ta peine au plus profond de moi et je demande à Dieu de te donner la grâce et la force suffisantes pour te résigner. Frida.
L'impétueuse jeune fille, malgré son caractère révolutionnaire, ne va pas rapidement embrasser le communisme. Pourtant, nombre de chrétiens ces années-là au Mexique, comme partout dans le monde, se laissaient tenter par l'idée que le combat pour la justice sociale était comme le bras armé d'un christianisme vraiment engagé. Frida, en 1924, ne s'intéresse pas aux révoltes qui secouent Mexico. Dans sa correspondance, elle demande seulement à ses amis si la ville est fréquentable, avant sa flemme de lire les journaux. Et tandis qu'à l'autre bout du monde, en Russie, Lénine, Trotsky et Staline s'apprêtent à inaugurer une ère nouvelle de l'histoire de l'humanité, Frida se préoccupe encore de réciter pieusement chaque soir un pater et un ave et d'accueillir entre deux bénédictions papales les indulgences plénières accordées par l'Église au peuple des fidèles.
J'ai eu deux accidents dans ma vie. L'un à cause d'un bus, l'autre ce fut Diego. Diego, ce fut de loin le pire.
Le 17 septembre 1925, alors qu'elle revient de cours, son autobus percute un tramway. Elle échappe de peu à la mort, mais se trouve très gravement blessée. Ses fractures se comptent par dizaines. Une rampe métallique l'a transpercée de part en part depuis le dos jusqu'au bas-ventre, fracassant trois vertèbres, déchirant son pelvis et son sexe. Son pied est en bouillie. Armée de son optimisme habituel, elle pense pouvoir retrouver rapidement une vie normale. Mais les semaines, les mois passent, augmentant ses souffrances. En mars de l'année suivante, les médecins lui apprennent qu'elle va devoir être appareillée pour se déplacer sans danger.
Je suis toujours malade. Je maigris beaucoup. Le médecin est d'avis qu'il faut me poser un corset en plâtre pendant 3 ou 4 mois au lieu de cette gouttière qui fait peut-être un peu moins mal que le corset mais qui donne de piètres résultats. Comme il faut y rester des mois, les malades se blessent et les plaies sont plus faciles à soigner que la maladie. Le corset va me faire horriblement souffrir. Parce qu'il doit être bien ajusté. Et pour me le poser, il va falloir me suspendre par la tête jusqu'à ce qu'il sèche. Sinon, ça ne servirait à rien tellement ma colonne est déglinguée. Alors, en me suspendant, ils vont faire en sorte de me redresser le plus possible. Et je te passe les détails. Bref, tu peux imaginer ma souffrance et celle qui m'attend. Si je casse pas ma pipe d'ici là, on me posera lundi à l'hôpital français. Le seul avantage de cette saleté, c'est que je pourrais marcher, mais vu à quel point j'ai mal à la jambe quand je marche, l'avantage s'avère être un inconvénient. En plus, je risque pas de sortir dans la rue avec cette dégaine où j'atterrirais à l'asile à coup sûr. Si jamais par malheur le corset ne donnait aucun résultat, alors il faudrait m'opérer. Et l'opération consisterait toujours, d'après ce même docteur, à m'enlever un bout d'os dans une jambe pour le mettre dans la colonne. Mais avant que ça arrive, tu peux être sûr que je me serais auto-éliminé de la surface de la Terre. Voilà à quoi se réduit mon existence. Rien de nouveau sous le soleil. Je m'ennuie avec un E comme « et merde ».
On lui confectionne un lit pourvu d'un miroir en guise de baldaquin qui lui permet de se voir quand elle est allongée. Au fil des jours, elle va laisser son ancienne vie et ses aspirations au métier de médecin. Et puisqu'elle ne se débrouillait pas trop mal en dessin, eh bien, elle peindra. Elle n'aura pas à chercher longtemps un sujet d'inspiration. Il lui suffit d'ouvrir les yeux quand elle est étendue sur son lit de souffrance. Le miroir lui renvoie ce visage qui deviendra son principal modèle. Comme si cet accident avait été la mauvaise étoile qui annonçait une série de malheurs, les parents de Frida sombrent dans une profonde dépression. Son petit ami la laisse tomber. La famille manque d'argent. Elle est obligée de vendre ses peintures pour payer ses radios, ses soins et les interventions chirurgicales. Cette accumulation d'épreuves a eu raison de sa foi. Elle ne parle plus de Dieu. Dès 1927, elle se rallie définitivement aux idées communistes. C'est l'année suivante qu'elle rencontre ce deuxième accident dont elle parle dans ses mémoires en la personne de Diego Rivera. Elle connaissait le personnage, admirait son œuvre. Elle a décidé de lui montrer les siennes. Diego est conquis.
L'étoile révélait une extraordinaire force d'expression, une description précise des caractères et un réel sérieux. Elle possédait une sincérité plastique fondamentale et une personnalité artistique propre. Elle véhiculait une sensualité vitale, encore enrichie par une faculté d'observation impitoyable, quoique sensible. Pour moi, il était manifeste que cette jeune fille était une véritable artiste.
Rencontre d'artistes et véritable coup de foudre réciproque. Diego Rivera est touché au cœur par cette jeune femme à l'allure incroyablement digne, aux yeux brillants d'une énergie à la fois sauvage et sensuelle. Un amour est né. Il traversera toute leur existence. Les parents sont mis au courant. S'ils acceptent assez facilement les 20 ans qui séparent les deux amants, ils se montrent plus dubitatifs lorsque Frida leur annonce son mariage avec cet homme à la fois gigantesque et presque obèse. Pour sa mère, c'est l'union impossible d'une colombe et d'un éléphant. Si elle construit sa vie, Frida n'en a pas pour autant terminé avec les médecins. L'état de son pied et de sa colonne vertébrale laisse constamment planer la menace d'intervention chirurgicale. La seule chose qui lui paraisse positive dans cette affaire, c'est, dit-elle, qu'elle commence à s'habituer à souffrir. Ce qui la fait tenir, c'est cette soif de vie intarissable, alimentée par son amour pour Diego Rivera. Dans toute son œuvre écrite, on retrouve le prénom de Diego pratiquement à chaque page. Sur les esquisses qui composent une partie de ses mémoires, Diego apparaît comme l'alpha et l'oméga de sa vie. Il est la condition même de son existence. Mais au malheur physique qu'elle subit depuis plusieurs années, va s'ajouter un malheur moral. Diego Rivera est un impénitent coureur de jupons. À Mexico, tout le monde le sait. Elle aussi le savait quand elle l'a rencontré. Mais elle ne pensait pas être ainsi trahie, presque quotidiennement, presque sous son nez. Habituée à souffrir, elle se résigne, essaie elle aussi d'imiter l'infidèle époux. Elle a commencé à séduire des hommes, des femmes. Mais c'est en 1937 que va lui être donnée l'occasion rêvée de faire payer ses années de mensonges et de trahison à celui qui est son Dieu autant que son mari. Diego Rivera avait rejoint l'International communiste. Le président mexicain, apprenant que Trotsky, l'un des pères de la révolution bolchévique, a été chassé par Staline, lui propose de séjourner au Mexique, où il sera en sécurité. Diego Rivera, qui connaît bien le président, se porte évidemment volontaire pour héberger Trotsky. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou encore la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit, au cœur de l'histoire, consacré à Frida Kahlo et Léon Trotsky.